Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Micro Rebelle, la radio des alternatives sociales, la radio des constructions, la radio de l'éducation populaire et des démarches alternatives. Donc notre radio est donc diffusée sur micro-rebelle.fr et nous sommes aujourd'hui dans l'émission Micro Rebelle Hebdo, qui est également diffusée sur nos amis de Radio PFM 99.9, hein, la radio de l'Arrajois et au-delà d'ailleurs. Donc cette émission Micro Rebelle Hebdo, aujourd'hui c'est un peu du décryptage, hein, décryptage de l'actualité, c'est notre deuxième émission de cette nature. Je vous en rappelle le principe, hein, nous avons plusieurs invités, donc aujourd'hui nous sommes avec Jacques et Pierre, ils vont se présenter tout à l'heure. Chacun d'entre nous choisit soit un thème d'actualité tiré de la presse régionale ou locale, soit un événement lié à sa pratique militante ou à sa pratique tout court, hein, sa pratique citoyenne en quelque sorte. Et puis on débat ensemble de ces événements, de ces principes de l'actualité. Alors aujourd'hui on a donc Jacques et Pierre avec nous. Je vais les laisser se présenter. Jacques, je te laisse la parole.
Oui. Bonjour Lucien, bonjour Pierre. Moi, je suis liévinois. Je suis engagé dans un collectif qui s'appelle le collectif Fraternité Rome, dans une association qui s'appelle l'association Au Secours 62. Je suis également bénévole à Médecins du Monde.
Très bien, je te remercie. Pierre ?
Bonjour, je suis multicarte, donc je vais simplement donner deux cartes, c'est-à-dire le collectif Ouyouyouy qui s'oppose à l'exploitation du gaz de couche, notamment dans la région, mais pas seulement, évidemment. Et puis je fais partie du collectif Anti-THT qui fait référence à la problématique du renforcement d'une ligne de très haute tension entre Avelin et Gavrel pour transporter de l'énergie. Donc ça fait partie des deux activités importantes, il y en a d'autres, mais c'est difficile d'être sur tous les terrains.
Très bien, merci Pierre, merci Jacques. Alors, donc le principe de l'émission, hein, je vous l'ai rappelé, en quelque sorte il s'agit d'évoquer, de discuter, d'échanger autour d'événements d'actualité, hein, autour d'aspects politiques, d'aspects sociaux, d'aspects écologiques, enfin d'aspects qui font la vie de toutes et de tous. Peut-être d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias. Peut-être aussi un certain nombre d'apports de connaissances, un certain nombre d'échanges qui peuvent intéresser nos auditrices et nos auditeurs, en ce sens que c'est sans doute pas des faits relatés majoritairement dans les médias, comme on dit, mainstream. Alors, peut-être pour entrer directement dans le vif du sujet, Pierre, je vais te laisser nous présenter l'actualité, l'événement que tu as choisi aujourd'hui de présenter à Micro Rebelle Hebdo sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9.
Oui, alors ça fait référence à un fait banal que j'ai vécu mardi en sortant d'une réunion justement du collectif Ouyouyouy à Lille. J'étais en gare de Lille aux environs de un petit peu avant 21h. Je vais résumer assez rapidement, hein. Et donc j'étais en train de lire, et puis est arrivée une personne qui manifestement voulait de l'argent. Cette personne était d'ailleurs bien esquintée au niveau du visage. Et tout de suite, dans la foulée, on a vu débouler, entre guillemets, 3 euros de la police ferroviaire. Et tout de suite, ils ont demandé à ce monsieur de quitter le hall de gare. Alors je suis intervenu pour dire que ce monsieur me parlait, tout ça, puis qu'on pouvait discuter dans un pays normalement constitué. Et ils ont dit la mendicité est interdite. Bon, sur le moment, je n'ai pas pu discuter plus. Ce n'est qu'après, évidemment, quand j'ai pris le train, j'ai eu le droit à une barrière de ces trois personnes. Qui m'ont intimé l'ordre qui m'ont demandé d'ouvrir les sacs. Ils ont regardé, ils ont fait semblant de regarder, hein, puisqu'ils n'ont même pas vu tous les livres, ils n'ont même pas vu tous les couteaux que j'avais. Également, j'avais une bombe, mais ils n'ont pas vu.
Voilà, j'espère qu'aujourd'hui tu as laissé tout ça à l'entrée quand même.
Je ne sais plus. Il faudra que je regarde après.
Vas-y, continue, Pierre.
Et donc, c'était vraiment pour m'intimider. Donc, c'est à ce moment-là que j'aurais dit que, évidemment, ce monsieur qui était là, qui discutait avec moi, s'il faisait de la mendicité, il faisait ça par plaisir. Évidemment, tout le monde sait que la mendicité, ça se fait allègrement et sans difficulté. Et puis, j'aurais dit, vous êtes les fiefs zélés de serviteurs de l'état d'urgence actuellement instauré. Et en plus, le meilleur, c'est que vous êtes payé par les impôts, c'est-à-dire par tout un chacun, dont moi. Et puis, je vais terminer là-dessus. Il y a eu d'autres détails qui ont fait que ça s'est revenimé un petit peu, mais ça n'a pas été jusque un peu plus loin, puisque je pense qu'ils ont dû certainement tenir compte du fait que, comme j'étais un petit peu d'un certain âge, j'étais peut-être sénile, donc il fallait les laisser. Le problème est très clair, c'est-à-dire que, si je peux développer, c'est que
vas-y.
On est vraiment dans le phénomène actuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'état d'urgence. Alors, c'est d'autant plus remarquable que ce qui me surprend, ce qui me choque quand je vais à Lille, à la gare, on voit non seulement la police ferroviaire, mais on voit également la police, pas la gendarmerie, l'armée, c'est sûr, avec évidemment des armes. Donc on est tout de suite rassuré, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un climat de confiance parce qu'on est sûr que s'il va se passer quelque chose, on sera tout de suite protégé et on aura des serviteurs qui seront là pour pouvoir aider celui qui est victime de ces affreux terroristes, entre guillemets. Alors le problème, c'est qu'on instaure continuellement, complètement et de plus en plus insidieusement un état où les gens vont s'habituer à ce phénomène de l'état d'urgence. Alors, il faut savoir tout de même que l'état d'urgence a été décrété après l'attentat du Bataclan en novembre 2015, juste avant la COP21, et qu'on en est
reconduction, oui.
Oui, et donc c'est une reconduction jusqu'au mois de juillet 2017. C'est-à-dire que la fin d'un mandat piteux fait qu'on se retrouve avec vraiment une pression de plus en plus importante, et non seulement une pression, soi-disant, si c'était pour un péril imminent, on pourrait concevoir qu'effectivement il faut savoir se serrer les coudes, mais en fait ça a permis à un certain nombre de militants, entre autres, d'être assignés à résidence, en particulier avant la COP21 et par la suite. Hein, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui ont perdu leur travail à cause de ça. On est vraiment dans une répression importante, une répression au niveau des libertés individuelles. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et deuxième mise en avant qui me paraît importante, et après je vais m'arrêter, c'est à la chasse aux militants d'une part, mais c'est aussi la chasse aux pauvres. Et on le voit avec l'exemple que j'ai indiqué en préambule. Et ça se concrétise parce qu'il paraîtrait que dans le métro, il y a une brigade spéciale qui a été constituée pour faire la chasse.
Dans le métro lillois ?
Dans le métro lillois, pour faire la chasse au personnel en errance. Donc on demande des informations à Transpol pour cette question, parce que c'est trop grave, cette accusation qui a été avancée. Et ce ne serait pas surprenant dans le climat actuel, parce qu'on est vraiment dans un climat où de plus en plus, on est habitué à ce que dans des endroits comme la gare, dans des endroits comme le métro, il ne faut surtout pas qu'il y ait des gens qui transpirent la pauvreté. Donc, comme tout le monde sait très bien que la pauvreté est loin d'être anéantie, pardon. Eh bien, il faut cacher toutes ces misères. Et ces misères-là, on les voit de plus en plus, et malheureusement, c'est un constat d'une situation paradoxale et d'une situation politique qui est tout de même assez grave.
Très bien, je te remercie. Jacques, je t'interroge directement, est-ce que ça te fait réagir
Oui, ça me fait réagir de diverses manières. Bon, je vais rassurer Pierre, je pense qu'on va faire un débat à couteau retiré, donc on peut y aller.
J'ai laissé mes couteaux là.
Voilà, donc dès le départ, un fait banal, tu dis, bon, j'ai bien entendu tout de suite tout le second degré qu'il pouvait y avoir dans cette manière d'annoncer ce que tu as vécu. Il est banal dans la mesure où il se répète, mais il n'est pas banal dans le sens qu'il donne à ce qui se passe désormais dans les lieux que l'on peut être amené à fréquenter, lieux publics en particulier. Cette intervention de la police ferroviaire à ton encontre, je veux dire, au moment où toi tu devais monter dans le train, moi je l'ai ressenti tout de suite, dans la manière dont tu la rapportes, comme une intervention répressive. Tu avais osé, à un moment donné, t'interposer dans leur intervention à eux, là, pour faire que tout soit bien lisse, bien propre, bien net, pour éliminer une personne qui n'était pas telle qu'on pouvait le souhaiter. Ils n'intervenaient pas forcément pour aider cette personne qui était en difficulté. Ils venaient là, en fin de compte, faire que tout soit à nouveau... Comme les bien-pensants veulent et comme ils veulent voir ce qui est ou ne pas voir ce qui ne va pas et ce qui peut être le résultat d'ailleurs de la manière dont on organise la société. Et c'est quand même assez loin d'être banal. Bon, je parlais d'humour, de deuxième degré, lorsque tu parles d'état d'urgence, alors c'est vrai qu'on est en ce moment en état d'urgence, mais cet état d'urgence, lequel ? Est-ce que l'urgence n'est pas là, justement de se questionner sur ces pratiques que l'on voit se développer sous prétexte d'assurer la sécurité des bons citoyens, mais qui en fait amène à... repousser tout ce qui va déranger, alors qu'on devrait peut-être que ce qui dérange, c'est ce qui permet de réfléchir, et que peut-être la richesse aussi de nos sociétés, ce sont nos différences. Alors, peut-être une question là, que je renvoie à Lucien et à toi, Pierre. Où se trouve la limite pour déranger ce qui est bien organisé et où se trouve la limite pour à un moment donné demander à ceux qui sont assurés censés assurer, je veux dire, la sécurité de tous les citoyens pour autoriser leur intervention sans que ça ne devienne de la discrimination.
Voilà, effectivement, si je peux me permettre d'entrer dans le débat, il y a la question que tu poses. Avant de l'aborder, je vais me permettre de donner comment j'ai lu un petit peu ton intervention, comment j'ai décrypté ton intervention, Pierre, comment je la relis à mes propres préoccupations. Moi, je dirais, on est dans un système qui est en crise, quoi. Cette crise qui ne fait que s'approfondir et donc qui ne fait que générer de plus en plus d'exclus. Puisque tu parles de la gare de Lille... aussi de plus en plus de réactions, par exemple la fraude dans les transports en commun. Pour masquer ça, pour masquer cette crise et puis ces réactions, d'ailleurs parmi les réactions, c'est des choses qu'on entend assez peu souvent, mais il y en a beaucoup de réactions. Il y a de plus en plus, par exemple, d'entreprises qui luttent, qui se mettent en grève. Alors en ce moment, on entend parler des Whirlpool, on entend parler de différents conflits, mais il y a vraiment des conséquences à cette crise qui sont tout à fait réelles, qui sont tout à fait réelles en matière d'accroissement de la pauvreté d'un côté et de réaction des populations de l'autre. On pourrait décliner un nombre extrêmement important de... Et donc le pouvoir, pour masquer ça, pour faire le nettoyage, l'expression a été entreprise, effectivement, je pense qu'il est de plus en plus amené à promouvoir des mesures répressives, je reprends ton expression, Jacques. Pierre évoquait l'armée dans les... C'est vrai, moi je fréquente assez régulièrement les transports en commun lillois. L'armée est omniprésente dans les grandes gares, c'est tout à fait fort. Transpol met en place des dispositifs répressifs extrêmement forts en matière d'amende. Aujourd'hui, quelqu'un qui fraude à Lille, il est soumis à une amende qui se veut extrêmement dissuasive, extrêmement importante. Et donc, il y a derrière tous ces dispositifs une volonté de mettre au pas la contestation, finalement. Une volonté de mettre au pas la contestation. Et moi, c'est aussi ce que je lis dans l'intervention de Pierre. C'est, il y a un pauvre, il faut déjà le dégager, parce que ça ne fait pas propre. Ça pourrait donner des idées à d'autres. Et en plus, il y a quelqu'un qui s'interpose. Bon, ben alors là, c'est complètement inacceptable. Et je pense que toutes ces forces répressives, elles sont formatées hein, par leur management, par leur direction, pour aller dans le sens, effectivement, de la continuité du pouvoir. Hein. Moi, je ne suis pas tout seul à le penser, mais l'état d'urgence, il a été mis en place, effectivement, après les attentats. Mais ça a été surtout une très bonne occasion de museler le mouvement social, une très bonne occasion de mettre au pas, effectivement, un pays en crise qui peut être amené à réagir de plus en plus. Pierre, je te vois réagir, vas-y.
Oui, en fait, par rapport à la question qui était posée par Jacques, ça va tout à fait dans le sens que tu viens de dire, Lucien. Hein. C'est-à-dire où se trouve la limite pour ne pas déranger ou pour déranger. C'est là qu'est la problématique de ce que j'appelle la démocratie. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'interrogation actuellement. C'est-à-dire que quand on voit un petit peu la façon de réagir, encore, moi j'ai pas trop, je ne souffre pas trop des rapports avec la police dans la mesure où je suis quelqu'un qui n'est certainement pas, qui n'est pas des cités, de la cité, qui n'est pas confronté à cette violence continuelle. Mais là, on voit très bien tout de même que la seule façon de poser la problématique, c'est de poser la problématique en termes de violence. Et c'est d'autant plus unilatéral que la violence, d'un côté, elle est réprimée, elle est sanctionnée, tandis que du côté de ceux qui utilisent la violence pour, par exemple, matraquer un certain nombre de personnes qui ne font rien, eh bien, on peut être sûr qu'il n'y aura pas du tout de sanctions en direction des gens qui sont censés être là pour rassurer la population, etc. Et puis, moi, le deuxième problème qui me dérange beaucoup, c'est qu'en fait, on pose toujours la problématique depuis janvier 2015. On pose la problématique en termes de violence dans le pays, en termes de violence aussi à l'extérieur, c'est-à-dire dans des pays comme l'Afrique, comme la Syrie, comme l'Irak, etc., l'Afghanistan également. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question de savoir pourquoi on en arrive là et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une responsabilité de la part de l'État français, de nous en particulier, de cette situation qui devient de plus en plus belliqueuse et qui amènera obligatoirement un renforcement de cette violence. Et ça, pour moi, ça fait partie des deux questions qui me paraissent importantes actuellement. C'est-à-dire que, par exemple, dans un pays comme le Danemark, quand ils ont été victimes d'un gars qui a tué je ne sais plus combien de personnes...
En Norvège. Hein.
C'est en Norvège, pardon. Eh bien, le gouvernement a dit on va réagir à cette façon de faire, on va être encore plus à l'écoute des gens, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là au niveau français. Et ça, c'est tout de même dramatique parce que, évidemment, qu'on peut avoir des divergences. Parce que mon voisin, je ne suis jamais d'accord avec lui, avec Jacques, hein, ça c'est clair. Donc j'arrive tout de même à le supporter.
Et au-delà de la plaisanterie, une société, c'est faite de contradictions et de conflits.
Absolument, tout à fait. Et puis ça permet d'avancer parce qu'on n'est jamais sûr de soi. Moi, je ne suis sûr de pas grand-chose, surtout par les temps qui courent. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de convictions, mais on peut très bien se rendre compte que les convictions d'autres personnes sont plus justes et permettent d'avancer collectivement.
Jacques. Oui, trois points sur lesquels j'ai envie de dire quelque chose. Ce que tu as dit, Lucien, le mot que tu as employé, le mot « crise hein. ». Alors on peut le vivre comme quelque chose d'inquiétant, et on en parle d'ailleurs depuis longtemps, et à tout niveau, la crise financière, la crise économique, la crise de société, la crise de religion, de foi, tout ça. Alors moi je m'interroge, et je rejoins un peu ce que disait Pierre, avec la place au doute, qui permet d'avancer. Est-ce que justement, ce n'est pas une bonne chose, plus qu'un problème. Est-ce que c'est pas, je veux dire, un déséquilibre qui permet aussi là de se poser des questions et de chercher des solutions qui seront temporaires, mais qui vont permettre justement de progresser. Ouais, et donc la crise, on n'est pas obligé de la voir non plus de manière négative, à condition qu'on ne veuille pas l'exploiter dans des buts qui ne servent pas l'intérêt général, par exemple. J'ai bien entendu, et c'est, peut-être qu'on y reviendra aujourd'hui ou une autre fois, sur l'intérêt qu'il y a à mettre en avant les luttes ou toutes les initiatives qui se mettent en place ici ou là, justement, en réponse à ce qui peut être la grosse crise ou des mini-crises.
Bon, c'est pas un raz-de-marée, mais c'est des choses qui existent.
Oui, tout à fait.
On est loin du processus révolutionnaire, mais c'est des choses qui se passent. Quoi.
Oui, oui. Alors par rapport justement à tout ce qui se met en place pour que tout soit bien cadré, bien rassurer les gens, je me repose souvent cette question, et là ben, forcément ce qu'a dit Pierre, ça me l'a amené à nouveau. Que veut la majorité des personnes qui vivent en France ? Parce que, en principe, ce qui se fait par les gens qui sont censés les représenter, les sécuriser, doit être fait au nom de ce qui est leur demande. Et leur demande, je veux dire, dans toute la diversité. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait vraiment quelque chose qui se soit vraiment exprimé, bien nettement, sur ce besoin de sécurité à tout prix, sur ce besoin d'intervention à tout va. Et ça me paraît important de se poser la question. Est-ce que vraiment les gens qui habitent notre pays, au-delà des seuls Français, répertoriés, ne veulent que de l'ordre, ne veulent que de la tranquillité, et que de la propreté, que voilà. Donc c'était le deuxième point, et le troisième point concernait bon cette idée de violence. Alors moi, sur ce que j'ai compris, c'est que les forces de l'ordre sont les seules, je veux dire, personnes qui sont censées être investi d'une violence dite légitime, qui devrait assurer la sécurité des citoyens et des gens qui sont sur le territoire. Alors cette violence, jusqu'à quel point est-elle légitime ? Et jusqu'à quel point peut-on l'autoriser ? Pour qu'elle n'autorise pas certaines personnes qui se croient investies de cette violence légitime, pour aller au-delà, parce que c'est ce qui se passe aussi. À partir du moment où la structure, le système augmente le niveau de violence légitime en s'appuyant sur des faits ponctuels. Bon, un attentat, on comprend bien que on demande aux forces de l'ordre d'intervenir brièvement, voilà, il faut faire quelque chose. Mais à partir du moment où on installe ça, et on l'installe dans la durée, où on en fait, on le glorifie un peu, hein, je mets entre guillemets, on se rend compte qu'on prend un gros risque, c'est celui de faire que des individus, soit en petits groupes, soit tout seuls, soi-disant investis de ce droit à la violence légitime, aillent au-delà de ce qui est autorisé.
Effectivement, je pense que voilà, tu poses des questions très différentes et très tout à fait tout intéressantes. Sur la dernière question du fait que des groupes se sentent autorisés à user d'un droit qui leur a été attribué, on en vit dans la récente période des déclinaisons extrêmement dramatiques. Hein. Bon, l'affaire Théo, tout le monde l'a en tête. Hein. Ça, c'est quand même un exemple de violence d'État autorisée. Légitime, mais il y en a tout plein. Il y a tout plein d'exemples comme ça qui n'ont pas donné lieu à des réactions. Il se trouve que là, il y a eu des réactions très importantes avec des mouvements de population très très forts dans différents quartiers, une manifestation nationale. Enfin, et la question elle est posée effectivement. Vous savez, moi je pense que l'exemplarité ça compte, et quand les dirigeants ouvrent les vannes, quand les dirigeants ouvrent, mettent les feux au vert, eh bien les exécutants se sont autorisés et les vannes sont ouvertes et il arrive effectivement que les instincts les plus bestiaux, finalement les instincts les plus bas, puissent trouver une expression concrète. Pierre ?
Oui, je rejoins ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est toute la problématique posée au départ par Jacques, de savoir est-ce que l'ordre doit être un élément prioritaire. Moi je dirais qu'on nous l'impose, cet ordre. Alors que il y a un certain nombre de structures, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau des entreprises, il y a des structures qui fonctionnent différemment, sans obligatoirement avoir un chef, obligatoirement avoir un maître, etc. C'est-à-dire qui permet de fonctionner d'une autre façon. Et quand ça fonctionne d'une autre façon, par exemple dans les entreprises de façon collective, c'est-à-dire que les décisions sont prises à partir de l'écoute des gens et puis à partir d'un certain consensus, eh bien, il n'y a pas besoin d'ordre. C'est-à-dire qu'obligatoirement, ça avance. C'est-à-dire que ça coule de source et il n'y a plus à se poser des questions. Il faut se reposer des questions après, continuellement, évidemment. Mais je veux dire qu'on n'est pas, dans le domaine de l'ordre en priorité. Alors, moi, la question qui est secondaire, peut-être, mais qui me paraît tout de même très importante, c'est qu'on est en train de poser des questions au niveau sécuritaire, de façon à ne pas se poser des questions par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la pauvreté, par rapport à tout ce qui est environnement écologique, et surtout par rapport à tout ce qui est environnement social. Et à ce niveau-là, il n'y a qu'à constater que la période préélectorale ne pose pas les grands problèmes, pose les problèmes en termes de trafic de personnes qui se disent importantes. Mais la réalité, c'est qu'on veut masquer la situation qui est tout de même assez dramatique pour un certain nombre de personnes qui se retrouvent sans boulot. Ce qui veut dire qu'il faut se poser la question non seulement de l'intérêt du boulot, bien sûr, de l'intérêt de la production, mais surtout de l'intérêt de la personne.
Bien, alors il y a beaucoup de fils à tirer dans ce qui vient d'être dit, hein, beaucoup de questionnements. On va y revenir. Pour l'instant, on va s'arrêter. Hein, ça fait un petit moment qu'on a cet échange. Donc on est toujours sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. dans notre émission Micro-Rebelle Hebdo. On va se retrouver après une petite interruption musicale et alors après ces échanges peut-être qui nous brossent une société un peu noire finalement, je vais vous proposer un peu de musique classique, hein, du piano, du violon, une petite dose de musique classique pour apaiser un peu cette émission.
Nous jouons du violon.
Voilà, c'est une forme d'apaisement. Alors Le musicien qu'on va entendre, c'est Piano Chocolate, et c'est de la musique libre. Hein. Vous savez que sur Micro Rebelle, on donne toute la place à la création libre, hein, des créateurs qui souhaitent mettre à disposition de tous et de toutes leur création. Vous allez voir un peu de douceur, un peu d'émotion, et à tout de suite sur Micro Rebelle. Bien, je vous l'avais dit, il y a un peu de plénitude dans ces échanges. Donc on est toujours sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Et on va poursuivre nos échanges. Hein. Donc Pierre nous avait présenté un événement, une actualité qui lui tenait à cœur. Jacques, maintenant, je te propose de nous soumettre un petit peu, de nous inviter à débattre autour... autour de, je te laisse nous le dire.
Ben voilà, je vais profiter justement d'être en présence de deux experts sur la question.
Jacques est un flatteur. Hein.
Pour échanger hein, ensemble sur la question, je veux dire, du rôle des citoyens, des associations de citoyens, des collectifs, etc., dans la vie citoyenne. Dans les décisions qui sont prises dans leur collectif, par les collectivités auxquelles ils appartiennent, les communes, les communautés d'agglomération, au-delà. Ce qui m'a donné envie d'évoquer ce sujet, c'est le fait que c'est un questionnement que j'ai en permanence parce que c'est pas simple de trouver les diverses réponses qui peuvent permettre aux citoyens d'avoir une place et de l'apprendre. Et puis, ce qui me motive aussi, c'est la participation hier soir à une rencontre publique qui était organisée dans la ville du Portel, près de Boulogne, à l'initiative du collectif Eau et de l'association Au Secours 62, pour parler... avec des élus locaux qui avaient bien voulu être présents à cette réunion et avec toute personne qui le souhaitait bien sûr, des problématiques qui concernaient la ville du Portel, notamment en matière d'assainissement, je ne rentrerai pas dans le côté technique, et pour évoquer aussi justement la manière dont étaient associés les citoyens aux décisions qui étaient prises. Contrairement à ce que moi je connais dans la communauté d'agglomération où j'habite et dans la commune où j'habite, j'ai entendu hier des élus qui exprimaient fortement l'envie d'associer les citoyens à leurs décisions, notamment les citoyens représentés par une association, par un collectif. Apparemment, il y avait des faits qui venaient concrétiser ce qu'ils disaient à travers ce qu'ils pouvaient exprimer, raconter, rapporter de réunions d'information, d'actions en direction des écoles, en direction des associations de jeunes, des associations d'adultes qui participent aux diverses activités de la commune. Et puis là, concrètement aussi, par le fait que c'est une des rares communes de la communauté d'agglomération du Boulonnais qui accepte de mettre gracieusement à disposition au Secours 62 une salle. Et, tout à l'heure, on employait le mot banal. Apparemment, ce n'est pas banal de trouver des élus qui l'acceptent parfois. La discussion, elle a eu lieu lors de cette rencontre publique. Et j'ai bien entendu que... dans ce qui était exprimé, la grande difficulté que ces élus pouvaient rencontrer justement aussi pour mettre en place des échanges et une participation des citoyens à leurs décisions. Pour diverses raisons. Parce que il y a l'urgence qui fait que on n'a pas le temps de consulter. La facilité, donc, aussi, lorsque l'on prend des décisions entre soi, parce que la popularité
qui peut naître de projets décidés, même démocratiquement, mais qui déplaisent à d'autres. La difficulté qui existe dans la mesure où, pour associer les citoyens, il faut que ces citoyens soient disponibles. Et rien n'est organisé pour rendre les citoyens disponibles. On a organisé la société pour que les citoyens qui ont du travail soient au travail, pour que les autres soient à la recherche de travail ou ne soient plus en capacité de participer à de telles réunions, de telles concertations, de telles réflexions en commun. Et même quand la volonté peut exister chez certains élus, j'ai entendu très très fort cette difficulté qu'il pouvait y avoir justement à ce que, au niveau local, parce que c'est à ce niveau-là que je situe ma réflexion là, ces échanges qui pourraient être très fructueux, qui pourraient permettre aussi aux décisions qui sont prises d'être mieux comprises et de ne pas, je veux dire, être contestées parce que semblant descendre de gens qui ont décidé tout seuls, puissent justement être mieux acceptées et éventuellement être mises en œuvre en commun.
Alors peut-être, si je peux me permettre de t'interroger directement, donc, cette question de la relation entre monsieur, madame, tout le monde, entre ce qu'on appelle les forces vives, les forces militantes, celles et ceux qui agissent, et les élus, c'est vrai que c'est une question à laquelle on est souvent confronté, hein, dans nos initiatives alternatives, dans les propositions des différentes associations et collectifs militants. Peut-être juste un éclairage, hein, on va revenir après sur l'exemple du portel que tu décris, mais tu évoquais des difficultés sensibles dans l'agglomération dans laquelle tu vis, donc c'est l'agglomération de Lens-Liévin, hein. Sur cette même question de l'eau, en quelques mots, est-ce que tu peux nous les situer ?
Oh ben oui, je vais prendre un exemple tout simple. Alors, dans le cadre du nouveau contrat de gestion du service de l'eau, dont la compétence revient à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, il a été écrit qu'un observatoire de l'eau devait être mis en place à l'initiative du délégataire, c'est-à-dire la société à qui a été confié ce service par les élus.
La multinationale Veolia.
Voilà, en ce qui nous concerne. Et cet observatoire était censé pouvoir discuter de tout, discuter souvent, parce que si l'on veut observer, il faut quand même que ça puisse... je veux dire, cette observation, il faut qu'elle soit autre chose que ponctuelle et il faut qu'elle puisse être incisive dans tous les domaines. Et ce qui se passe, c'est que c'est tout le contraire. Voilà 4 ans que le nouveau contrat est en œuvre et à l'heure actuelle, il y a eu 3 réunions. 3 réunions de l'observatoire sur 4 ans, peut-être 3 réunions donc de 2 heures, 2 heures et demie, peut-on dire que l'on a observé. Peut-on dire que l'on a observé dans la mesure où ces réunions se passent donc dans une salle, que le thème est défini par une seule partie des gens qui y participent, que déjà les gens qui y participent ont été réduits de manière extraordinaire par rapport à ce qui était prévu au départ, qui devait être large, qui devait avoir la forme d'une assemblée générale, qui aurait associé toutes les personnes qui voulaient. En fin de compte, il s'y retrouve très peu de personnes, les représentants des élus, les représentants de la multinationale et 2 associations qui ont été choisies, on ne sait pas trop comment. Voilà, bon. Je vais ajouter simplement que la dernière réunion a eu lieu il y a près d'1 an maintenant, que suite à cette réunion, l'association Au Secours 62, donc je représentais avec un autre camarade, a posé toute une série de questions, a demandé à pouvoir disposer de nombreux documents, a fait des propositions de thèmes qui nous paraissaient importants pour les réunions à suivre. À l'heure actuelle, nous n'avons obtenu aucune réponse, mis à part une réponse automatique par Internet qui disait « Nous avons bien reçu votre demande, nous y répondrons dans les plus brefs délais. Ah. Ça fait 9 mois. Hein.
D'où effectivement peut-être ton...
Un accouchement difficile.
Ouais, ta surprise de ce qui s'est passé à la réunion du portel. Quoi, effectivement. Oui. Voilà. Peut-être Pierre, donc toi tu évoquais ton aspect multicasquette. Je pense que dans tes activités, tu as dû rencontrer ce type d'événements intéressants et puis moins intéressants.
Absolument. Au niveau de l'eau, je vais réagir sur l'eau, puis après sur le rapport entre les élus et puis les citoyens. sur l'eau dans ma commune, dans mon petit village de Quéry-la-Motte. C'est pas compliqué, le maire voulait absolument se séparer de la gestion de l'eau parce que soi-disant c'était trop compliqué, il fallait faire appel à des spécialistes évidemment. Les spécialistes en l'occurrence ça a été Noréad. Noréad qui est une structure qui est un peu bâtarde dans la mesure où elle n'est pas composée d'actionnaires, elle est composée d'élus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que si c'est composé d'élus, ce soit obligatoirement quelque chose de sain, de super sain. Et pourquoi c'est gênant cette situation? C'est parce que après, le citoyen n'a plus beaucoup de possibilités d'intervenir. D'autant plus que cette structure Noréad accepte relativement facilement différentes communes. Mais pour sortir de cette structure, c'est absolument impossible. Et donc, on n'a plus la mainmise sur l'eau. C'est-à-dire qu'on laisse faire, et comme ça permet à d'autres de prendre des décisions et de ne pas prendre de décisions, d'ailleurs, en l'occurrence, dans la mesure où l'eau de Quéry-la-Motte est toujours aussi mauvaise qu'il y a plus d'un an. Et puis, tout ce qui avait été promis n'a pas été fait, comme d'habitude. Alors c'est ça qui est paradoxal, et effectivement la problématique avancée par l'exemple du Portel est très intéressante. C'est-à-dire que moi j'y vois deux pistes de réflexion. La première, c'est la réflexion sur la position de l'élu. C'est-à-dire qu'un élu normalement doit être à la disposition des citoyens. En réalité, on le voit très bien avec tout ce qui se passe au niveau communal, au niveau départemental et au niveau national. L'élu, à partir du moment où il est élu, il considère que les citoyens sont à sa disposition. Il considère que lui, il peut faire ce qu'il veut pendant le laps de temps qui lui est imparti. Donc ça, c'est déjà un premier problème et un premier obstacle par rapport à tout ce qu'on appelle la démocratie. Comme j'ai tendance à dire actuellement, si effectivement des votes étaient si démocratiques que ça, et s'ils permettaient un changement radical par l'intermédiaire des votes, il y a longtemps que ça se serait, d'une part, et il y a déjà longtemps que ça aurait été interdit. Et deuxième question, beaucoup plus profonde, je pense, c'est la façon de laisser la parole aux citoyens. Et moi, je trouve que là, effectivement, c'est un problème, parce que les citoyens n'ont plus l'habitude de s'exprimer. Mmh. Et c'est pas en disant, vous voyez, ils ne savent pas s'exprimer, donc on va s'exprimer à leur place. Et c'est le nœud du problème, c'est-à-dire qu'il faut revenir à la base. Et quand je dis à la base, c'est-à-dire admettre qu'on va avancer très lentement, admettre que... Mmh. Un certain nombre de choses, ça va prendre du temps, mais il faut essayer d'y arriver parce qu'il y a des choses qui viennent de la base, même quand c'est mal exprimé, ce sont des idées qui peuvent être remarquables et qui peuvent, en tout cas, qui sont étudiables. Et ça, on n'a plus l'habitude parce qu'on est toujours confronté à ce problème que les communes font appel à des experts et ne font pas appel à des citoyens. Et ça, c'est tout le drame actuellement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la caricature de ce qu'on appelle la démocratie participative. On en est loin. Et c'est là, actuellement, les gens après se désintéressent. Alors que c'est le nœud du problème.
Alors Jacques, peut-être concrètement, au Portel, qu'est-ce qui motive les élus? Puis comment ont réagi les gens? Cette espèce d'appel du pied de la part des élus, est-ce que ça offre des perspectives ou est-ce que, effectivement, comme le dit Pierre, il y a encore du travail pour mobiliser
le fait que j'ai voulu parler de ce sujet avec vous, c'est justement à la fois, je veux dire, j'ai été sensible à cette volonté vraiment net, hein, de deux élus qui étaient là, plus il y avait une personne chargée de l'animation auprès des diverses associations, auprès des écoles, justement pour faire travailler les gens autour des sujets qui sont portés par la nouvelle municipalité. Nouvelle municipalité, donc, ça répond un peu à ta question, c'est-à-dire que cette municipalité-là a été élue en 2014, hein, voilà, lors des élections municipales. Et certainement que les personnes qui ont été élues avaient ressenti elles-mêmes une mise à l'écart par rapport aux décisions qui étaient prises par les prédécesseurs. Et je pense qu'ils sont encore suffisamment, pour l'instant, imprégnés de cela pour se dire il ne faut pas qu'on recommence ce que
qu'on reproduise
ce qui a été fait par les autres et qu'on fasse vivre à nos concitoyens ce qu'on a vécu mal, hein, d'ailleurs, voilà. Mais on se rend compte qu'il y a la pression, le statut de l'élu dont parlait Pierre, l'urgence, le rythme de vie qui est celui de maintenant, et hier ça a été évoqué aussi, cette question du temps, amène à ce qu'il rencontre beaucoup de difficultés pour y parvenir. Il faut faire vite, il faut décider vite, il faut faire des choix, il faut faire des arbitrages, et on n'a pas le temps de réunir les gens, et lorsqu'on veut les réunir, le temps de l'élu n'est pas celui du citoyen, et rien n'est prévu pour tout ça, et c'est une difficulté. Donc comment faire, parce que voilà, là, je viens de noter sur mon papier, parce que je ne voulais pas l'oublier, quelles alternatives, parce que je pense que à la fois toi, Lucien et Pierre, vous êtes porteurs d'alternatives, et je pense qu'ensemble, là, on peut aussi y réfléchir
bien sûr.
Positivement.
Bien sûr. Alors typiquement, tu évoques les temps différents, le temps de l'élu, le temps des citoyens, le temps des militants. Mais dans cette réunion, qu'est-ce que tu as perçu ? Une difficulté des gens à être force de proposition, à construire une... à argumenter, à construire une proposition. Qu'est-ce que tu as perçu
Bon.
Ou simplement un décalage, peut-être.
Non, alors, les participants à la réunion... Comme souvent, malheureusement, et là, on va rejoindre l'idée de la formation, déjà de la sensibilisation. En fin de compte, lorsqu'on a fait le tour de table, il s'est avéré que c'était, je vais dire à 99% des gens qui avaient déjà fait un chemin, qui, au-delà des difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour justement avoir une place, se sont battus individuellement ou collectivement pour la gagner, cette place, et qui se sont déjà investis dans une association, dans un groupe politique, etc., de manière à se faire entendre. Voilà. Ou parce que le sujet de l'eau les a intéressés, dans le collectif eau de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Voilà. Donc... je n'ai pas pu entendre là, je veux dire, ce qui pouvait être la difficulté de ce qu'on pourrait appeler un monsieur tout-venant. Mais en existe-t-il ? Est-ce que tout le monde n'est pas intéressé par la question de l'eau ? Bon, on l'a entendu hier. Il y a des personnes qui, de manière un peu répétée, d'après ce que disait l'un des représentants de la municipalité, viennent faire pression pour demander un espace de jeu pour les enfants. Voilà. Par contre, la mise en place d'un bassin de rétention d'eau qui va permettre d'éviter des inondations au moment des gros orages et le déversement des eaux d'assainissement directement dans la mer et donc dans les eaux de baignade du Portel, qui est un gros problème pour les élus, un certain nombre de Portelois et de Portelloises, malheureusement, n'y sont pas sensibles. Donc ça, c'est une difficulté.
Chez Pierre.
Voilà.
Oui, c'est toute la difficulté qu'on a actuellement. C'est-à-dire que c'est pour ça que les élus... moi, c'est mon point de vue. Les élus font appel aux experts, point. Alors qu'en réalité, le problème, il faut le poser autrement, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux experts d'exprimer toutes les difficultés, d'exprimer éventuellement des perspectives sombres ou optimistes, hein. Et puis ensuite permettre à ceux qui sont ce qu'on appelle les citoyens de base de partir de là pour pouvoir dire si on fait comme ça, qu'est-ce que ça peut donner ? Moi, je vais donner un exemple pour dire que les experts sont pas expert en tout. Je pense une fois, dans mon village, il y avait un gars qui voulait construire, et puis il y a un voisin qui lui a dit « Faites attention, il va y avoir de l'eau dans votre cave. Hein, » parce que bon, celui qui construisait a dit « C'est pas possible. » Le géologue a dit que l'eau se trouvait à 6 mètres en dessous de la terre. Quand il a commencé à construire, l'eau est arrivée, c'est-à-dire que la nappe phréatique était montée. C'est-à-dire que le géologue, lui, n'avait pas connaissance véritablement du territoire. C'est pas une critique obligatoirement de l'expert. Il connaît un certain nombre de choses, il connaît pas tout, et puis il faut faire attention à ce que disent les gens. Ils sont pas du tout idiots, c'est-à-dire qu'ils connaissent le terrain. Et c'est ça tout le problème, c'est-à-dire qu'on fait toujours appel, et puis moi je l'ai vécu évidemment à propos de l'eau sur ma commune, on fait appel à des experts, parce que les experts savent. Et ils savent pas tout, et puis surtout, faut pas faire... La décision ultime, ça vient pas des experts, ça devrait pas venir des experts, ça devrait venir des citoyens.
Alors effectivement, ouais. Et puis il y a... Il y a ce qu'évoque Jacques, hein, des citoyens qu'on n'a pas habitués à débattre, qu'on n'a pas formés, qu'on n'a pas mis en confrontation, ça pose un certain nombre de problèmes. Moi je pense que ce qui tranche, ce qui peut trancher, c'est la pratique. Moi je vais donner un seul exemple, c'est l'exemple de Micro-Rebelle. Je peux faire témoignage de jeunes qui croyaient absolument pas en eux, qui n'étaient pas du tout investis, et qui, au travers d'initiatives comme la radio, se mettent en mouvement, s'interrogent, font preuve d'esprit critique, alors qui sont pas au niveau de militants qui ont une expérience accumulée au fil des ans, mais sont sans doute l'avenir un petit peu d'un certain nombre de transformations. Moi, je pense que cette question de la pratique... Aller au-delà des réunions, les réunions c'est important, il faut les mettre en œuvre, les lectures c'est important, il faut les mettre en œuvre, les débats, les échanges, mais des pratiques de construction, c'est un raisonnement très matérialiste, hein, finalement c'est dans l'action qu'on se transforme et qu'on évolue.
Mmh. Oui, hier soir, je pense que c'était le responsable du domaine environnement, hein, la commune du Portel, là justement, disait que beaucoup de réponses qui avaient déjà été apportées là sur les 3 ans de mandat étaient des réponses qui avaient été apportées justement par les experts, parce que l'urgence les amenait à se tourner vers les experts. Et c'est vrai que c'est un vrai problème là aussi de société. On se rend compte que se développent partout alors les groupes d'experts et les cabinets de consultants qui sont aussi d'autres experts. Bon, on se demande, on les consulte, on les paye bien cher.
Grassement rémunérés, effectivement.
Et souvent pour donner des avis qui sont des avis ils se contredisent entre eux, ils sont jamais d'accord non plus. Ça sert pas à grand chose, mis à part à leur faire de.
Dans le sens du vent.
De la pub, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que l'objectif, là, dans ma réflexion, ce serait de faire en sorte que tous experts, que l'on aide les gens à d'abord à partager leur expertise qui existe déjà et à le devenir encore davantage. Et s'il y a des experts plus forts que d'autres, il y a des techniciens qui ont développé des capacités, je pense qu'ils doivent les mettre au service ensuite pour apporter des solutions techniques à des décisions qui ont été prises par les citoyens experts eux-mêmes. Hein, voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'à mon avis, il faut travailler. La pratique, peut-être que l'on peut y réfléchir un peu plus. Cette forme de pratique, comment la mettre en place lorsque rien n'est fait, je veux dire, officiellement, pour que ces pratiques se développent. Ce que moi je connais, ce sont des pratiques qui se font dans le cadre, je veux dire, des heures creuses, je vais les appeler comme ça, c'est-à-dire des heures qui ne sont pas des heures de travail des gens. C'est-à-dire que les gens, pour pouvoir faire quelque chose qui va aller dans l'autre sens, c'est sur leur temps de bénévolat, leur temps libre que ça se met en place. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, plutôt que de dire on va faire travailler les gens davantage pour qu'ils gagnent un peu plus, de les faire travailler un peu moins et de leur dire vous avez à ce moment-là un certain temps qui est libéré, que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez pour prendre part à la réflexion citoyenne, à la participation citoyenne, à créer des initiatives que vous avez à cœur, mais que vous ne pourriez pas faire dans le cadre de la vie telle qu'elle est organisée actuellement.
Ouais, écoute, moi ce que je propose, c'est qu'on garde cette réflexion pour un autre débat, puisque le temps a passé, on est maintenant à la fin de ce micro-rebelle hebdo. On va rester sur ta conclusion, tous experts, hein, si tu es d'accord, on va rester là-dessus, puis peut-être fouiller cette question de l'implication générale dans le cadre d'alternatives, dans le cadre de l'action, pour une autre de nos émissions. Donc je rappelle à nos auditrices, à nos auditeurs, qu'on est toujours dans l'émission Micro-Rebelle Hebdo, hein, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM99.9. Je vais rebondir sur une intervention de Pierre, hein, qui évoquait le fait de s'impliquer, le fait de se former. Ben, à Micro-Rebelle, on a aussi cette possibilité, donc j'invite celles et ceux parmi nos auditrices et auditeurs qui souhaitent s'impliquer dans cette émission à nous rejoindre, soit directement en studio pour y participer concrètement, soit sous forme de questionnements, d'interrogations, de propositions de débat. Hein. Donc le plus simple, c'est de nous écrire à l'adresse contact@microrebelle.fr. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, hein, sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. À très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.